RCF.
Témoin, Laetitia Forgeot d'Arc.
Elle a été l'une des premières voix en France à alerter l'Église sur les abus sexuels commis en son sein. Le pape François l'a nommée membre de l'Académie pontificale pour la vie. Elle parcourt le monde au gré des colloques ou formations pour enseigner, transmettre, mais aussi écouter. C'est aujourd'hui Marie Jotil qui accepte d'être témoin sur RCF.
Témoin, quand la foi se raconte.
Marie Jotil, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'accepter de partager, peut-être au-delà de ce que vous faites, ce qui en est le moteur. Et j'ai envie de dire, le moteur, il en faut un puissant quand même pour activer cette énergie qui est assez impressionnante. On vous voit sur de nombreux fronts. J'ai parlé en vous présentant de la question des abus sexuels dans l'Église. C'est vrai que depuis 20 ans, et en particulier depuis l'ouvrage que vous avez écrit et qui fait référence chez Bayard il y a 2 ans, vous êtes une référence sur cette thématique. J'ai envie de vous demander ce qui vous a mis en route sur ce sujet si critique.
Alors c'est une histoire longue, c'est pas venu du jour au lendemain. C'est parce que j'ai moi-même une double formation de médecin et de théologienne que des gens se sont venus vers moi. Pourquoi j'en sais rien. Parfois je me dis bon ben voilà, j'étais entre guillemets prédestinée, mais dans le meilleur sens du terme, pour me demander conseil en disant bon écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que rappelez-vous, dans les années 90, d'abord on n'avait pas internet. Ensuite, c'est un sujet qui restait tabou, quoi qu'on en pense aujourd'hui.
Il n'y avait pas de parole.
On commençait à en parler aux États-Unis, mais c'était pas connu en France. Donc, dans les années 90, j'ai été sollicitée en particulier par des victimes d'inceste qui me disaient « Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on porte plainte? Comment traiter? Comment soigner? Où est-ce qu'on peut trouver de l'information ?» Et là, je me suis mise moi-même à la tâche parce que comme universitaire, je suis toujours préoccupée par une parole qui soit transmissible, qui soit partageable. Et donc, j'ai essayé de trouver de l'information. Ben, écoutez, je devais le concéder. Il n'y avait pas grand-chose.
Il n'y en avait pas encore.
Non. Et donc, j'avais demandé aussi à Xavier Thévenot de m'aider à réfléchir parce qu'il avait travaillé, lui, comme théologien sur la question de l'homosexualité, qui avait été assez mal vue dans l'Église, mais qui était un travail qui a fait date. Et donc, de fil en aiguille, j'ai proposé un article à la conférence épiscopale, enfin via son secrétaire général qui était Bernard Lagoutte, qui a été publié d'emblée par les documents épiscopaux et qui a été en 98 le premier document dans l'Église sur cette question. Et ensuite, de fil en aiguille, c'est une question qui m'a toujours préoccupée. Les évêques m'ont demandé de les aider à réfléchir. J'ai fait pas mal de formations, etc. Et donc, à force, oui, c'est comme ça que je suis arrivée à travailler jusqu'à écrire cet ouvrage qui m'a quand même beaucoup coûté et que j'ai porté pendant 20 ans avant de pouvoir l'écrire.
Alors précisément, cet ouvrage donc paru chez Bayard en 2019, l'Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs, c'est une somme et pour autant, ça se lit très simplement, très facilement. On sent dans votre façon d'écrire qu'il y a ce souci de transmettre. Alors, vous l'avez dit, vous êtes médecin d'abord, mais vous avez toujours été enseignante, vous êtes toujours à la recherche de la transmission. Et cet ouvrage, aussi complet soit-il, il veut transmettre. Il y a une façon de vouloir libérer la parole sur ce sujet qui est, comme vous venez de le dire, tabou.
Alors, je crois que pour libérer la parole, il faut d'abord être réceptif, entre guillemets. Et je crois que ça, c'était un très gros problème à la fois dans l'Église et en dehors de l'Église, dans la société, parce que on n'admettait pas que les victimes soient vraiment des victimes. On se disait, mais non, c'est rien, ça va passer, c'est juste un peu de futilité. Enfin, vraiment, on avait un vocabulaire qui était absolument terrible. Et donc, tant qu'on ne comprend pas qu'il y a des victimes qui peuvent être traumatisées à vie, voire avec un stress traumatique aigu qui les conditionne pour le restant de leur jour au niveau d'un tas de pathologies chroniques, etc., qui revivent ce qu'elles ont vécu pendant un certain nombre d'années, on ne comprend pas l'enjeu et on ne va donc pas chercher non plus à remédier à la situation. Et donc ensuite seulement, je veux dire, on est réceptif parce qu'on comprend, mais donc ça veut dire d'abord mettre en mots la parole des victimes pour pouvoir mettre en mots les traumatismes et pour pouvoir mettre en mots je dirais, les problèmes dysfonctionnels systémiques à l'intérieur de l'Église, du showbiz, de l'éducation nationale, de la société, etc., en sachant que tous ces problèmes s'intriquent et qu'on ne peut pas complètement les séparer.
La foi se raconte dans Témoins.
Marie Jotil, tout ce travail dont vous nous parlez et qui a abouti à cet ouvrage paru, je viens de le dire, en 2019, qu'est-ce qu'il vous a appris ? On a l'impression que chez vous-même, il y a eu aussi cette conversion pour arriver à comprendre d'abord la parole de la victime.
Alors, là où il y a eu vraiment une conversion, c'est qu'au départ, alors que j'ai toute ma vie été confrontée à cette question, même si ce n'est que en tant qu'adulte que j'ai mis des mots sur ce que j'ai pu observer à différents endroits durant ma vie, des choses qu'au départ je pensais beaucoup plus ponctuelles. Ça vaut d'ailleurs pour l'agression des femmes, la discrimination des femmes, etc. Je pensais que c'était des choses qui se trouvaient ici ou là, voire presque qu'on en était responsable, hein, parce que j'ai été formatée dans cette société. Et c'est donc...
Vous voulez dire que la victime était responsable ?
Oui, absolument. Ou que les femmes étaient responsables de leur propre discrimination. Vous voyez, quand j'étais jeune, on était dans une société qui fonctionnait de cette manière-là. Et c'est donc ma propre formation universitaire, mais aussi l'expérience de la vie, qui a fait que, en m'ouvrant, j'ai pris conscience et j'ai accepté moi-même de faire ce cheminement en prenant conscience qu'il ne s'agissait pas d'un problème de victime, il s'agissait d'un problème de société et il s'agissait dans cette société de problèmes où le langage, les représentations, les présupposés culturels, les présupposés théologiques étaient au fond facteurs d'abus. C'est quelque chose de terrible d'en prendre conscience parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de résistance. Moi, l'Église, je l'aime. La société dans laquelle je vis en France, j'aime mon pays. Donc, comprendre et accepter qu'il y ait des facteurs qui se conjoignent pour finalement aboutir à ces abus, c'est quelque chose qui n'est pas facile. La médecine, bien sûr, m'a aidée, mais je me suis rendue bien vite compte qu'il n'y avait pas que des facteurs médicaux, il n'y avait pas que des structurations psychologiques. Au début, je me disais, c'est des moutons noirs, hein, comme on l'a dit à beaucoup de niveaux. Mais non, force est de se rendre compte que non, il y a des problèmes systémiques et qu'il s'agit de les prendre en compte et que ce n'est que en prenant en compte cette complexité de manière continue, dans le temps, dans l'espace, qu'on va finir par être un peu plus préventif dans nos attitudes.
Alors, vous le dites, Marie Jotil, cette crise, elle est systémique. C'est quelque chose sur lequel vous insistez énormément, que ce soit qu'on parle de la crise au sein de l'Église ou plus largement dans tous les lieux où cette question des abus existe. Comment, alors même que vous le dites aussi, vous aimez votre Église, comment est-ce que vous restez chevillé au sein de l'Église à travailler en collaboration en permanence? Comment on a du mal à imaginer que la révolte ne vous fasse pas tout exploser et tout envoyer balader, si j'ose dire?
Je dirais que dans la foi chrétienne, nous avons des ressources qui nous permettent de nous indigner. Et l'indignation est une attitude saine. Il faut d'abord dire non à ce qui n'est pas acceptable. Mais dire non à ce qui n'est pas acceptable ne veut pas dire qu'on dit non à tout, qu'on dit non à l'Église, etc. Mais il y a des facteurs qui ont facilité les abus. Et par rapport à cela, je dis non et je m'indigne. Mais je m'indigne parce que l'indignation ne suffit pas. Donc je m'indigne, je dirais, en étant toujours à la fois dans la protestation, mais aussi en essayant de convoquer les énergies qui sont susceptibles de travailler ensemble pour essayer d'aller de l'avant. Alors, ce n'est pas une question très facile, cette question des abus, et je m'en rends compte de plus en plus. Cet ouvrage m'a obligée, au fond, à prendre en compte cette multitude de facteurs. Où dans l'Église, aujourd'hui, il y a le meilleur et le moins bon. On essaye d'avancer, mais en même temps, on est pas dans des facteurs uniques, des facteurs ponctuels. Donc la question même du fonctionnement de l'Église, du fonctionnement de la curie, de cette perspective hiérarchique où les femmes n'ont aucun rôle de gouvernance, n'ont pas de rôle dans la prédication, même si c'est en train de changer, ce sont des facteurs qui ont contribué à ces abus dans l'Église. Donc il s'agit bien d'aller de l'avant et de tenir à la fois le Christ qui nous dit « je reste avec vous jusqu'à la fin des temps » et moi je lui fais confiance et c'est ce qui me porte avec cette joie de la foi qui est vraiment l'atmosphère au fond de moi et en même temps ce refus absolu des abus dans l'Église et de toutes les compromissions et de tous les dysfonctionnements. Donc ce n'est pas une position très facile, c'est une position extrêmement instable où j'essaye de ne jamais rester seule, où j'essaye, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être dans l'argumentation rationnelle, d'examiner les facteurs de manière précise pour essayer de dire « attention, là, il faut aller de l'avant ». Donc je ne refuse jamais de partager quelque chose dans les conférences, dans les groupes de travail, etc., pour aller de l'avant et obliger les gens à prendre conscience, à accepter cette indignation comme refus de ce qui n'est pas acceptable, mais aussi d'essayer de construire ensemble quelque chose positivement.
La foi se raconte dans Témoins.
Marie Jotil, cette ligne de crête que vous tenez entre joie et indignation, où est-ce qu'elle trouve sa source? Où est-ce que vous puisez l'énergie suffisante pour, j'allais dire, mettre un pas après l'autre sur cette ligne fragile? Où est-ce qu'elle s'alimente cette fois?
Elle s'alimente dans la relation au Christ. De façon, je veux dire, c'est une manière un petit peu courte de le dire, mais c'est vraiment ça. Après, le Christ, je le rencontre où? C'est la deuxième
question. C'est la question que j'allais vous poser.
Voilà. Alors, le Christ, d'abord, je le rencontre dans ma vie de prière, dans ma vie de relation. Au fond, je suis toujours en relation avec le Christ. C'est vraiment ce qui me porte. Je lui parle comme je vous parle à vous toute la journée, quotidiennement et tout au long de la journée. Quand j'ai quelque chose à dire, c'est pour je lui dis. Je dis Seigneur, écoute, là non, franchement, ça va pas. Ou là, écoute, merci. Ou là, ah, je t'aime quand même bien. Voilà, c'est ce côté d'abord d'une relation personnelle très forte que je vis depuis toujours, que je dirais c'est ma mère qui m'a initiée à cela. Je me sens aimée, je me sens accueillie, je sais que le Christ est présent dans ma vie et ça c'est plus fort que tout.
Et ça n'a jamais faibli.
Alors, il y a bien sûr des questions dans la vie qui font que on se pose des questions, mais en même temps, non, de toute ma vie, je connais cette relation qui a connu de nombreuses modalités, mais c'est une vraie relation. Ensuite, je dirais, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu que je fréquente quotidiennement. Il y a la liturgie que j'aime beaucoup, qui me porte. Je suis moi-même très active dans la liturgie. Je fais ce que nous appelons des ADAP, des assemblées dominicales en l'absence ou en l'attente de prêtres depuis les années 80.
Donc ça fait l'attente de prêtres.
Voilà.
C'est positif.
Ouais. C'est depuis 40 ans que je fais ça. Je veux dire que c'est quelque chose qui me porte énormément. Faire une célébration le dimanche, jour du Seigneur, une célébration à Vendredi Saint, les vêpres de la Toussaint, etc. Avoir une église où il y a beaucoup de croyants qui partagent avec vous cette foi et qui prient ensemble. Je veux dire, prenez la communion des saints, rien que dans les vêpres, c'est quelque chose de très très fort. Donc la liturgie, pour moi, oui, c'est un lieu de ressourcement. La figure du pauvre, la figure de tout être humain, la figure de l'autre, quel qu'il soit. Ce que en théologie nous appelons, vous voyez, là je reviens à mon lieu de mon topos de rationalité, des lieux théologiques, c'est-à-dire des lieux où le Christ mort et ressuscité me donne rendez-vous comme une source d'eau vive qui me nourrit, qui me désaltère et qui me permet d'aller plus loin et qui me régule. Parce que quand je suis en relation avec le Christ, j'ai besoin aussi de lieux de régulation. Sinon, je peux toujours tomber dans les fantasmes ou dans quelque chose. Non, le Christ, il n'est pas, il est à la fois le même et l'autre, c'est-à-dire qu'il est Dieu et homme. Et c'est dans cette relation, cette différence dans la même thé dans la différence qui est régulante. Donc, c'est pas un Christ que moi je manipule parce que il me dit non. Là, la parole de Dieu me dit là. Tu peux pas aller au-delà ou là tu peux pas. Donc il y a des interdits, voilà.
Alors ce Christ compagnon dont vous nous parlez,
oui.
Ce Christ qui marche avec vous véritablement au quotidien, qui vous habite, comment vous arrivez à ou pas à le partager avec votre entourage? J'entends, vous évoluez dans un milieu qui est scientifique, vous êtes vous-même médecin. Est-ce que vous vous voyez pour autant témoin du Christ?
Alors je me vois témoin du Christ par-delà une annonce explicite même du Christ. En fait, je m'adapte à tous les milieux, mais je me dis que même dans un milieu où il n'y a pas de partage de la foi chrétienne, il y a ma joie de vivre, il y a ma manière d'aborder ma relation à l'autre, quel qu'il soit, ma manière d'entrer en contact avec le milieu dans lequel je vis, j'habite, la nature, l'environnement. Pour moi, je suis de la campagne, j'aime la nature, j'aime l'environnement. Et donc, c'est même cela est une relation qui tient de ma relation au Christ.
Est-ce que c'est cela que le théologien Christophe Théobald appelle le style?
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Donc, Marie-Jo est le style.
Ouais.
Votre vie de théologienne, votre vie de chrétienne, de croyante, s'entremêle avec celle de chercheur, d'universitaire, de médecin en permanence et naturellement.
Oui, absolument. Il n'y a pas de frontière entre tous ces milieux. Et je pense que la porosité, y compris celle de la vulnérabilité, qui est un de mes thèmes forts dans la recherche, et je définis la vulnérabilité comme une porosité ontologique. Vous voyez, cette vulnérabilité, elle est la mienne, elle est celle des disciplines que je fais se croiser, elle est celle de Dieu lui-même qui est réceptif à tout ce que nous vivons en tant qu'êtres humains.
La vulnérabilité, c'est quelque chose dont on parle peu. On va pas parler de tabou, mais tout simplement parce que ça n'a pas vraiment sa place aujourd'hui dans un contexte où il faut s'en sortir et où il faut réussir. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème ?
Parce que sans vulnérabilité, il n'y a pas de relation. Que c'est la vulnérabilité qui permet le coup de foudre amoureux. Que c'est la vulnérabilité qui nous constitue quand quand je souffre, quand je rentre en relation. C'est par la vulnérabilité que rentre la grâce. C'est par la vulnérabilité que je reçois et que je donne, que je me reçois et que je me donne. Et l'être humain n'est pas une forteresse en haut d'une montagne complètement fermée, comme le dit un certain transhumanisme, une certaine perspective scientifique trop étroite. Je crois que la vraie perspective scientifique, elle prend en compte ce que nous appelons la condition humaine, comme nous disons si joliment, c'est-à-dire cette perspective où je suis... je suis comme une éponge. C'est ça la vulnérabilité. Mais en même temps, cette éponge, c'est vrai, vulnus veut dire blessé, blessable. C'est quelque chose qui peut me blesser. Mais c'est parce que je peux être blessée que je peux entendre l'autre blessé, blessable lui aussi. Et que nous pouvons progresser ensemble bien plus que de donner des remèdes ponctuels à titre de médicaments extérieurs à nous-mêmes. Les meilleurs remèdes, c'est notre interrelation et notre interrelation gracieuse.
La foi se raconte dans Témoin.
Marie-Jotil, on parle maintenant du CERE, le Centre européen d'enseignement et de la recherche en éthique que vous avez contribué à créer en 2005. Vous avez créé, pas seul, mais vous avez créé. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la création de ce centre qui est extrêmement actif et puis qui était relativement précurseur?
Oui, absolument. Et nous sommes originaux par l'interdisciplinarité qui est unique en France. Alors, pourquoi le CERE? Parce que quand j'étais maître de conférence à Metz, donc jusqu'en 99, et quand je suis arrivée à Strasbourg où j'avais fait mes études de médecine et où je connaissais un certain nombre de gens, ma première idée a été de créer un groupe de recherche interdisciplinaire pour s'occuper des questions d'éthique médicale et de bioéthique, parce que personne ne détient la vérité à lui tout seul. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La vérité, elle est transdisciplinaire, la vérité, elle est multiforme, c'est comme un vitrail et on a besoin de toutes les couleurs pour le vitrail. Donc voilà, et c'est quelque chose qui est toujours devant nous quand on essaye de trouver l'attitude juste qui finalement caractérise l'éthique. Or, pendant mes études de médecine, l'éthique n'existait pas. Je n'ai pas eu d'humanité comme dans les années 60 avec mes 68, les humanités ont entre guillemets disparu. À partir du milieu des années 80, mais moi j'étais thésée de 83, Jean-Marie Mons va essayer d'intégrer comme doyen de la faculté de médecine des cours d'éthique au lit du malade, et je trouve que cette initiative a été remarquable. Mais il nous manquait une vraie formation. Or, la réforme de Bologne dans la fin des années 80, des années 90, on a commencé vraiment à réfléchir, et finalement c'est une réforme qui aboutit au début des années 2000. Donc vous voyez, ça a mis beaucoup de temps, mais c'est une réforme très importante parce que ça a créé la perspective du master actuel, le LMD, comme on le disait, licence en 3 ans et non plus DUG, licence maîtrise. C'est devenu licence en 3 ans, master, doctorat. Je me disais, bon, c'est pas au niveau de la licence qu'on va enseigner de l'éthique, mais c'est au niveau du master. Donc avec cette équipe que j'avais créée, je leur disais, il faut qu'on mette quelque chose en place, mais une éthique interdisciplinaire, pas simplement de l'éthique médicale. Donc finalement, à force de ténacité, j'ai réussi effectivement à faire que les 3 universités que nous étions à cette époque-là à Strasbourg, donc l'université Marc Bloch, Louis Pasteur et laquelle donc encore, Robert Schuman.
Voilà, aujourd'hui c'est l'université
Strasbourg. C'est droit politique, la médecine et puis les sciences humaines. Donc les 3 ont été partie prenante dans la création du CERE, qui fait donc un master, doctorat, HDR en éthique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, oui.
Et qui aujourd'hui est consulté, et cette base d'interdisciplinarité est restée comme une ligne de conduite.
Absolument, c'est quelque chose qui reste très très fort et qui est tout à fait importante, parce que c'est pas un master de philosophie, c'est pas un master juste de sciences sociales, c'est un master interdisciplinaire. Et j'ai moi-même eu cette reconnaissance avec les premiers trophées de l'éthique en France pour l'interdisciplinarité. Et là, nous l'ouvrons aussi à l'interculturalité à partir du mois de septembre avec la collaboration de l'université de Freiburg in Breisgau avec un master in Interdisciplinary Ethics en français, anglais, allemand.
Bravo alors pour cette nouveauté. Merci beaucoup Marie-Jotil d'avoir accepté d'être aujourd'hui le témoin à notre antenne et puis d'avoir accepté bien de partager cette passion pour la vie qui vous habite. Merci beaucoup.
Merci à vous.